Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Mon invitée du jour est de celle qui me fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Illustratrice de métier, elle use sans jamais en abuser de ses talents pour raconter son quotidien de maman de jumeaux. Dans son travail comme dans la vie, Pauline Perrollet n'a qu'un mot d'ordre, déculpabiliser les mères. Parce que oui, être mère, c'est dur. Ça bouffe ton énergie, ton temps de cerveau disponible et peut-être même ton espérance de vie. Surtout quand tu as deux petits du même âge à gérer toute la journée. Avec ses dessins, Pauline montre qu'on fait tout ce que l'on peut, que ce n'est pas grave si la maison est en bazar, si le bain est zappé ce soir ou qu'on mange des pâtes pour la troisième fois cette semaine. Ce n'est pas ce qui reste. Ce qui reste, c'est l'amour, les câlins, les jeux, tout ce qui donne du sens à cette envie de devenir parent. Et ça, Pauline le raconte très bien aussi. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Pauline, bienvenue sur Prenons un café.
Bonjour Élise, bonjour aux auditeurs.
Je suis ravie de te recevoir, moi je suis ton travail depuis un moment, tu me fais beaucoup rire sur les réseaux avec tes illustrations, j'adore, donc je me suis dit pourquoi pas l'inviter, cette dame qui me fait rire à propos de la parentalité sur mon podcast. Est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter s'il te plaît?
Oui, alors je m'appelle Pauline Perrollet, j'ai 38 ans et je suis illustratrice et autrice de bande dessinée. Et j'ai aussi des petits jumeaux. Je suis mariée, j'ai des petits jumeaux de 2 ans et demi.
Ah, sympa, 2 ans et demi.
Ouais, le bon âge, comme on dit. Oui.
Ouais, le bon âge. Je vais te poser la question un peu traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours voulu être mère?
Non, alors moi, pas du tout. Vous voyez, j'ai 38 ans, donc ça m'est venu assez tard. J'avais jamais pensé à ça, ou plutôt je pensais que je voulais pas être mère, jusqu'à ce que je rencontre mon mari en fait. C'est vraiment ça qui m'a donné envie d'avoir des enfants, c'était avec lui, voilà.
Ouais, c'était la bonne personne en fait.
Voilà finalement. Ça, mais c'était pas du tout une évidence pour moi, enfin, ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit pour être honnête. Ça m'est venu d'un coup, voilà.
Ouais, mais c'est intéressant, tu vois, moi j'aime bien poser cette question parce qu'elle est tellement différente et elle raconte tellement l'histoire de chacun et chacune, je trouve ça hyper intéressant. Du coup, quand t'as rencontré ton mari, vous en avez parlé assez rapidement ou alors c'est venu comme ça, un peu par hasard?
Non, au début on en avait parlé, puis on s'était mis d'accord qu'on n'en voulait pas ni l'un ni l'autre, qu'on n'aurait pas d'enfants, qu'on passerait notre vie à boire du champagne et à voyager, voilà.
Excellent projet.
Et puis finalement, je sais pas, petit à petit, peut-être en voyant les amis autour de nous qui étaient tellement contents, avec des enfants, ça a commencé à mûrir dans notre esprit, puis on a commencé à y penser vraiment. Puis un jour, on s'est dit, ok, on va essayer, on va arrêter la pilule, on verra bien ce qui se passe. Puis une semaine plus tard, j'étais enceinte de jumeaux. Voilà.
Ah ouais.
C'était assez brutal, on va dire.
Tu passes de « on va voir ce qui se passe » à « il va y avoir 2 enfants dans notre vie ». C'est fou. Comment tu réagis, toi, à l'annonce de... Bah, déjà, l'annonce de la grossesse, parce que tu ne sais pas tout de suite qu'ils sont 2. Comment tu réagis?
Non, on ne savait pas qu'ils étaient 2. Moi, je suis assez vite que j'étais enceinte, hein, parce que je l'ai senti à plein de symptômes physiques. Donc, j'ai fait un test de grossesse assez tôt. Et c'est vrai que les 2 barres étaient vraiment très noires, c'est arrivé immédiatement. Donc voilà, on était un peu choqués, mais très contents. Puis je me souviens qu'on avait fait des blagues, on disait « t'as vu, ils disent d'attendre 3 minutes en 30 secondes, c'était très foncé, ça se trouve c'est des jumeaux », puis on rigolait comme ça, on rigolait beaucoup. Et finalement, bah, quand on a su que c'était des jumeaux, non mais là on était... Je crois que j'ai mis au moins 1 an vraiment à m'y faire, à comprendre que ça m'arrivait vraiment. Et je me souviens même quand j'ai accouché, ils ont sorti les bébés, puis là, j'ai dit, la première chose que j'ai dit, c'était vraiment 2, alors. C'était fou. J'ai eu vraiment du mal à enregistrer cette information, quoi. Ouais.
Ouais, c'est fou. C'est une possibilité qui avait été évoquée, parce que tu sais, parfois, quand t'as des jumeaux dans ta famille, t'y penses un petit peu, tu dis, ouais, ça pourrait être possible, ou vraiment, c'est une surprise totale.
Non, c'était une surprise totale. C'était vraiment une surprise.
Quelle surprise, ouais. Donc du coup, tu l'apprends vite qu'ils sont 2?
Oui, on l'a appris très vite parce que bah, vu que j'ai su que j'étais enceinte assez vite, on est parti faire une écho chez ma gynéco et ça faisait seulement 2 semaines. Donc elle, si vous voulez, elle avait vu Mais elle n'était pas sûre, donc elle nous avait rien dit. Elle nous avait dit « revenez dans un mois ». On revient dans un mois, puis là, elle nous accueille en nous disant « ah oui, c'est vous pour les jumeaux ?» Puis mon mari et moi, on était « non, non, c'est pas nous, pas du tout ». Puis elle était comme « bah si, si, c'est vous, en fait ».
Ah ouais, c'est comme ça qu'elle vous l'annonce.
Ouais,
La vache, t'arrives, tu t'y attends pas du tout et paf.
Non, on croyait que c'était juste trompé de parents, ça n'avait rien à voir avec nous. Donc voilà, c'était bien ça.
Ah ouais. Ah ouais, le choc un petit peu de vraiment pas s'y attendre. Psychologiquement, toi, comment tu réagis du coup?
Ben, sur le moment, j'étais choquée, c'est sûr. Bon, mon mari, lui, était très content tout de suite. Enfin, il était choqué, mais il était vraiment ravi. J'étais choquée, mais je pense que je me rendais. Vu que je savais pas du tout ce que c'était que d'avoir déjà un enfant, je me rendais pas du tout compte en fait de ce qui m'attendait et de. Donc, j'étais pas plus angoissée que ça, mais surtout vraiment choquée, quoi. Je ne sais pas dire autre chose.
Ouais. Comment se passe, du coup, ce début de grossesse avec cette information qui arrive? Est-ce que tu vis bien ta grossesse? Est-ce que tu as des symptômes forts ou pas tellement?
Bah, c'était affreux. Pour moi, la grossesse, du début à la fin, c'était vraiment terrible. Bah, les trois premiers mois, j'avais envie de vomir sans cesse. Ensuite, j'ai eu un diabète de grossesse. Donc j'étais ultra suivie, à la fin de ma grossesse, j'allais à l'hôpital, j'avais des rendez-vous trois fois par semaine, c'était affreux.
Ah ouais, quand même.
Vraiment et puis bon, après à la fin évidemment, j'étais énorme, j'ai trouvé ça très difficile, j'ai trouvé ça vraiment traumatisant pour le corps, j'étais pas bien. Et après finalement, ben j'ai fait une pré-éclampsie, donc ils ont dû déclencher l'accouchement et j'ai fait 12 heures de travail pour finir par une césarienne d'urgence. Mais ils étaient prématurés en plus, donc.
Ouais. Voilà. Joie, oui, la totale, quoi.
La totale, j'ai eu la totale, vraiment.
La grossesse merveilleuse dans toute sa splendeur.
À côté, j'avais des amis qui rayonnaient, où tout se passait bien, elles ont accouché naturellement, mais bon, moi, c'était pas comme ça, c'est sûr. J'ai trouvé ça très dur, vraiment.
Bah déjà, avec une grossesse gémellaire, le côté naturel est un peu mis de côté, puisque le suivi médical est déjà plus intense. Enfin, t'as des échos souvent, non?
Très intense. Bah, tous les mois, j'avais une écho. Mais c'est fou le nombre. Je passais ma vie chez les médecins, à l'hôpital, les diabétologues, tout. Ça me prenait un temps fou, vraiment.
Bah c'est ça. Et puis on te dit en général, ouais, la grossesse c'est pas une maladie, mais quand t'es dans ce cadre-là où t'es suivi médical, le suivi médical est intense. Enfin.
Cette phrase, elle est terrible parce que moi les trois premiers mois, bah ça se voyait pas vraiment. Puis on va pas vous laisser la place dans les files ou quelque chose comme ça. Mais non. J'avais envie de vomir sans cesse. Dès que je me levais, j'avais un malaise. Puis là, il y avait des hommes parfois qui me disaient « Mais c'est pas une maladie, la grossesse, machin. » J'étais « Arrête, tais-toi tout de suite.
» Comment t'as extériorisé tout ça, tout ce mal-être? Je te pose la question assez en ayant une idée précise, mais tu vois, ton travail d'illustration sur les réseaux, en tout cas, se tourne autour un petit peu de ta vie finalement de maman de jumeaux. Est-ce que ça a commencé pendant la grossesse ou c'est venu après?
Non, ça a commencé pendant la grossesse. Ça m'a aidé en fait de parler de ça, de dédramatiser un peu ce que je vais, de me moquer un peu de moi-même. Ça m'a beaucoup aidé à relativiser. Ouais. Et les retours des gens aussi, parce que de voir par exemple des femmes qui me disaient je vis la même chose, ou alors juste de me soutenir, de dire ah ma pauvre, ça doit pas être facile. C'est bête parce que c'est des gens qu'on connaît pas, mais finalement ça fait un bien fou. Donc ça m'a énormément aidé. Ouais.
Surtout quand autour de toi, si tu disais tes copines, elles sont avec le glow de grossesse, elles vivent tout bien, hein, tu dis ok, pourquoi moi c'est pas le cas.
C'est ça, d'autres personnes. C'était magnifique, elles étaient rayonnantes, vraiment.
Donc, il y a une injustice dans ce monde.
Ah oui, c'est ça.
Et alors du coup, cette grossesse se passe, est-ce que vous avez voulu connaître le sexe des bébés?
Oui, alors moi on avait tous les deux très hâte de le savoir. Et bon, moi, j'étais sûre que c'était les filles. Donc, je disais à tout le monde, vous allez voir, c'est les filles, instinct maternel, j'en suis sûre. Et puis, un jour, on en a vu qu'un bébé à une échographie. Donc, ils m'ont dit, non, c'est un garçon. Puis, j'ai dit, oui, la deuxième, c'est une fille, c'est sûr. Puis, non, c'était un deuxième garçon. Donc, voilà.
Et comment tu réagis, du coup, si t'attendais des filles et on t'annonce des garçons?
Bah, je sais pas, c'est marrant. J'ai toujours pensé que si j'avais des enfants, ce serait des filles. Voilà, ben, on sait qu'on sait rien en fait. Et j'ai eu deux petits garçons.
Est-ce que tu avais projeté justement ta maternité en fonction du sexe de tes enfants, tu vois? Parce que ben, je te pose la question avec mon expérience à moi, tu vois. Je me dis, moi, j'étais vachement projetée sur l'éducation d'une petite fille parce que j'avais l'impression d'avoir cette mission de lui apprendre à comment se défendre un petit peu et ce rapport-là. Comment toi, tu l'envisages quand on t'apprend que c'est des garçons, par exemple?
J'ai pas vraiment pensé à une différence d'éducation, mais maintenant qu'ils sont là, c'est bien aussi parce que vous allez par exemple apprendre à votre fille à se défendre. Moi, j'apprendrai à mes garçons à se comporter correctement et,
ouais.
et à être des bons gars, j'espère.
Je pense que oui, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison du tout, du tout. Et ton mari, comment il prend cette annonce justement de petit garçon? Il est content?
Oui, il était très content. Il était très content. Puis sa famille est libanaise, il est libanais. Donc voilà, pour sa famille libanaise, c'était vraiment... Deux garçons d'un coup, ils allaient me faire une statue en or. Vraiment, c'était fou.
trop bien. La naissance arrive. Tu nous parlais tout à l'heure de la pré-éclampsie et de cet accouchement. Est-ce que pour toi, l'accouchement, ça a été, tu l'as vu plutôt comme une libération ou plutôt comme un élément en plus dans la torture, entre guillemets?
Sincèrement, les deux. Moi, j'ai trouvé que c'était une torture, vraiment. Et les petits, depuis le début, étaient très bien positionnés. Donc, ça m'avait jamais traversé l'esprit que j'allais avoir une césarienne. Enfin, voilà. Après, j'ai fait 12 heures de travail. Il a fallu m'emmener en césarienne en urgence. J'ai trouvé ça abominable, sincèrement. Et j'ai cru que j'allais mourir.
Ouais.
Donc, c'était vraiment un moment vraiment très dur. En plus, j'ai pas arrêté de vomir. C'était affreux. Puis, il me disait, ne vomissez pas parce que votre cicatrice, ça va s'ouvrir.
Bien sûr, tu fais. Ah, mais oui, pardon.
Oui, c'est ça, je vais arrêter alors, pardon. Et donc, non, vraiment, ça reste un très mauvais souvenir.
Ouais,
pas cool.
Tu disais tout à l'heure qu'ils étaient prématurés. Ils étaient prématurés de combien?
Les jumeaux le sont souvent. Donc, pour eux, c'était pas si mal. C'était 36 semaines. Il a donc fallu déclencher l'accouchement à 36 semaines. Mais ils avaient des petits poids. J'en avais un qui faisait 1,5 kg. Donc, on a dû rester, on a dû rester en néonate pendant 2 semaines. Ça aussi, c'était bien difficile. Mais donc voilà, après, ils allaient très bien. Hein. Ils n'ont pas eu, leurs poumons étaient développés, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, ils étaient branchés, ils avaient des sondes dans le nez, ils étaient branchés à des machines. Donc toute la journée et la nuit, ça bipait. Alors nous, on paniquait, on disait leur cœur s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, c'était pas marrant.
T'as pu les voir à la sortie, quand t'as donné naissance? Ou alors ils sont partis directement?
Non, ils me les ont d'abord mis sur le ventre pendant que les autres étaient en train de me recoudre, etc., j'imagine. Et voilà, après, on t'emmène en salle de réveil, puis alors là, tu restes 2 heures, et ils étaient avec mon mari pendant ce temps-là. Et après, quand ils m'ont ramené, j'étais vraiment avec eux, quoi.
Et donc, cette naissance, tu deviens mère, ça te fait quoi de devenir mère? C'est que c'est une évidence pour toi dès le départ, ou alors pas du tout?
Mais je sais pas, parce que les circonstances étaient vraiment... après, ils étaient prématurés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a dû pendant, je sais plus, 1 mois ou 2 mois, c'est flou maintenant, se réveiller toutes les 3 heures, jour et nuit. On devait les nourrir toutes les 3 heures, les petits. Ça fait que les nourrir tous les deux, on n'a jamais dormi plus d'une heure et demie d'affilée pendant 2 mois. Non, mais c'est une torture. C'était vraiment... Donc, voilà, moi, je sortais de ma césarienne, machin, puis... Allez, j'avais jamais vraiment approché un bébé, je savais pas changer une couche. Donc, je dirais qu'au début, c'était terrifiant. Moi, j'avais peur qu'il meure sans cesse. J'avais peur de passer les petits bras dans les pyjamas. Il faisait 1,5 kg. Donc, vous imaginez le. Ouais. Je savais pas comment les prendre. Et tout ça en dormant 1 heure et demie à chaque fois.
C'est chaud.
Ouais, c'était terrifiant. Je sais pas dire autre chose. Ouais.
Ah ouais, non, tu m'étonnes. Attends. Et le passage en néonat, tu dis, vous êtes resté 2 semaines. Je crois que sur Prenons un café, j'ai très peu eu de personnes qui sont justement passées en néonat, donc j'aimerais vraiment peut-être aborder ce sujet-là avec toi. Qu'est-ce qui est le plus difficile selon toi, la néonat? C'est plutôt psychologiquement, ou enfin, qu'est-ce qui est le plus difficile quand tes bébés sont branchés et dans des couveuses?
Ben moi, c'était, je pense, l'impression, enfin la peur déjà qu'ils meurent parce qu'ils ont l'air tellement fragiles. En fait, ils le sont pas tant que ça finalement. On sait que les bébés sont bien plus forts que ce qu'on pense, etc. Mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir un petit comme ça avec la peau presque transparente et tout. C'est voilà, ce qui était dur, c'était ça, et que j'avais l'impression que eux étaient mal, par exemple. J'avais l'impression qu'ils étaient pas bien. Après, je sais pas si c'est vrai ou je me disais, est-ce qu'ils souffrent? Puis c'est vrai que nous, on était en Bretagne à l'époque, dans une petite ville de Bretagne, et les puéricultrices étaient assez, assez brutales, je dirais. Donc voilà, on se sentait pas forcément, on est vachement vulnérable à ce moment-là. On dort pas, on sait pas s'occuper d'enfants, on compte sur elles. Elles ont pas été, très douce, pas comme on pourrait s'y attendre. Par exemple, elles arrivaient, donc elles nous réveillaient toutes les heures et demie à peu près, parce qu'il fallait les nourrir toutes les 3 heures. Donc elles arrivaient, par exemple, dans la chambre, bam, elles allumaient les plafonniers, dans les yeux des bébés, des choses comme ça, quoi. Ou par exemple, moi, je voulais allaiter, donc j'en mettais un au sein, puis elle me disait, vous voulez pas essayer avec les deux? Puis je disais, ah non, je me sens pas de les porter tous les deux et tout ça. Puis bam, elle me collait les deux, elle disait, allez, on n'a pas le temps, machin, machin. Des choses comme ça qu'on trouve assez, finalement, brutales. Bon, ce serait aujourd'hui, évidemment, j'aurais réagi et j'aurais dit ce que je pensais. Mais à l'époque, j'étais tellement... mon mari
mais moi, tu sais
était,
pas.
Ouais, on savait pas. Puis on était super vulnérables. Puis on était tout... merci, pardon.
Ouais, c'est ça.
Voilà, aujourd'hui, c'est pas pareil. Je le prendrais pas de la même façon, c'est sûr.
Mais ouais, Ah, je vois ce que tu veux dire un petit peu, je comprends un petit peu ton ressenti. Et c'est vrai que quand on est sur une première naissance, on sait pas du tout, enfin, comment ça se passe, et que ce soit d'ailleurs des bébés prématurés ou pas. Enfin, je pense qu'on est un peu sur le même cas. Puis j'ai tellement, quand tu me dis, il appuie sur le plafonnier, je la vois, cette lumière. Tu sais, cette lumière blafarde qui s'allume d'un coup. Alors que toi, soit tu viens à peine de t'endormir, ou alors tu dors pas vraiment, et c'est horrible. Oui,
c'est horrible. Et pour les petits, eux qui sortent d'un univers où il n'y a pas de bruit, pas de lumière, et d'un coup, ils sont prématurés, ils sont là, ils sont minuscules, puis bam, elle a une lumière, elle parle hyper fort, t'as envie de lui dire, mais au secours, on est où?
Ouais, c'est ça.
Bon, après,
c'est
je comprends, ça. Ils n'ont pas le temps, puis voilà, tout ce qu'on veut, mais voilà, ça, c'était un peu brutal, on va dire. Voilà.
Vous avez pu rester avec les bébés jour et nuit, du coup,
ouais.
Pendant 2 semaines?
Ouais, ouais, ouais.
Ça, c'est bien.
Ouais.
C'est sympa.
Oui, c'est bien. Ouais.
Et alors, une fois que les bébés sortent d'affaires, il faut rentrer à la maison. Comment vous êtes organisée? Est-ce que ton mari, enfin, je ne sais pas quel est son métier, mais est-ce qu'il est resté à la maison avec toi? Enfin, comment ça s'est passé les premiers temps?
Alors, à l'époque, Karim, il était marin, donc il était absent. Il était absent une semaine sur deux. Mais quand ils sont nés, il est resté les 3 premiers mois. Il a pu prendre 3 mois. Donc ouais. Voilà, leurs 3 premiers mois, on était tous les deux.
C'est bien ça, parce que, enfin, je veux dire, sinon, t'imagines.
Ah, bah, sinon, je serais mort, je pense, ouais, ouais.
Ouais, ils t'auraient achevé.
Moi ou eux, en tout cas, il serait passé quelque chose. Mais du coup, non, j'ai eu cette chance-là qu'on puisse, et on s'en occupait vraiment, et toujours maintenant, 100% à égalité, je veux dire. Karim, il a appris en même temps que moi, à changer les couches, à trucs. Jamais il m'a demandé, mais comment on fait, mais où sont les produits. Enfin, il a pris son rôle vraiment, et heureusement. Heureusement.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'au retour à la maison, tu devais aussi toujours te réveiller toutes les 3 heures, ou
ouais.
Alors le rythme était un petit peu.
Ouais, pendant un moment, ouais, ouais. Si je me souviens bien, je crois qu'on devait les nourrir 11 fois par jour ou quelque chose comme ça. Ou 9 fois, je sais plus, quelque chose comme ça, mais c'était. Ouais.
Ah ouais, parce que c'était des petits pois, du
ouais,
coup.
Ouais,
c'est
ouais,
ça.
C'est ça. Mmh. Ils pouvaient pas prendre beaucoup de lait en même temps parce qu'ils étaient si petits, peut-être, et leur estomac. Voilà, donc il fallait qu'ils mangent souvent. Oui, j'ai allaité.
Pendant longtemps?
3-4 mois. Je pense.
Ah ouais, ouais. Pas mal.
Ouais.
Pas mal. Belle perf.
Ouais, hein. Merci, je suis fière.
Bah ouais, tu peux. Attends, déjà, allaiter un bébé, c'est déjà quelque chose. Alors, allaiter 2 bébés, c'est assez fou. Ça fait un allaitement exclusif, ou alors tu étais en mixte?
Ouais. Non, au début, exclusif. Après, c'était mixte. Et puis ensuite, j'ai laissé l'allaitement. Ouais.
Ouais. Ouais, trop bien. Comment vous êtes organisé logistiquement parlant? Parce que, enfin, est-ce que vous aviez de la place pour accueillir ces 2 bébés? Comment ça se passe? Parce que moi, je vois déjà le matériel de puériculture pour un bébé, c'est assez énorme. Quand on a 2, c'est 2 fois plus. Comment vous avez fait?
Oui, ça allait, la place. Ça va, on était dans un appart avec 2 chambres. Ouais. Bon, on avait une poussette, ça c'était le pire. Vraiment, la poussette, c'était une poussette double. Donc, vous voyez, à tous les ascenseurs, à toutes les caisses, à tous les endroits, c'est vraiment un suspense. Est-ce que je vais passer ou... Voilà, c'était ça le plus encombrant, vraiment. C'était cette poussette. Je suis ravie de m'en être débarrassée maintenant.
Ah ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que selon les modèles, il y a des trucs quand même...
Ah ouais.
Bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils en font quand même des plus... Je sais pas, qui ont l'air... J'ai vu ça passer sur les réseaux, écoute, passion puériculture.
Ils essayent, essayent de faire des efforts.
Ouais,
je pense,
ils essayent, ouais. Ça reste... c'est pas évident.
Les bulldozers, ouais, ouais.
C'est clair. Donc, ces premiers mois de vie en tant que parent se passent. Moi, j'ai envie de te poser une question parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on parle à des parents de multiples. C'est le regard des autres sur votre famille. Est-ce que tu as ressenti justement une certaine curiosité par rapport au bébé?
Beaucoup. Beaucoup. J'étais surprise parce que, je veux dire, on pouvait pas sortir dans la rue sans qu'on se faisait tout le temps arrêter par les gens dans la rue, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de parents de jumeaux que ça énerve. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça, c'était toujours, comme vous dites, curieux, mais souvent bienveillant. Vraiment, les 3/4 du temps, c'était toujours bienveillant. C'était juste de la curiosité. Les gens s'intéressaient et tout ça. C'était sympa. On a discuté avec plein de monde, qui voulait savoir sur les bébés, comment ça se passait, machin, machin. Puis, c'était chouette. On a fait des rencontres vraiment sympas. Au contraire, ça m'a pas dérangé du tout. Vraiment. Maintenant qu'ils sont plus grands, je suis presque triste qu'on m'arrête plus.
Ah, ça n'arrive plus? Ça arrive vraiment?
Ça arrive quand même, encore. Ça arrive quand même, mais moins. Parce qu'évidemment, on ne se trimballe pas avec cette poussette énorme, donc on attire moins l'attention, si vous voulez. Mais non, moi, j'ai trouvé ça très sympa. Mais c'est vrai qu'on a énormément de réflexions. Ça, c'est fou. Les gens sont très curieux. Ouais, ouais.
Et ils font quel genre de réflexion, du coup, sur la ressemblance?
Oui, beaucoup. Est-ce que c'est des vrais jumeaux? Est-ce qu'il y en avait dans votre famille? Ah, ça doit être difficile. Beaucoup. Ah, moi, je pourrais pas. Comment vous faites? Ça doit être dur. Enfin, beaucoup de choses comme ça. Ouais.
Ouais.
Pourquoi vous les habillez pas pareil, souvent?
Et alors, pourquoi tu les habilles pas pareil?
Moi, jamais je les habille pareil. Non, non. Bah parce que je pense que c'est pas une seule personne. Et puis les jumeaux, ça a un côté déjà un peu bête de foire. Allez, c'est un peu raide comme terme, mais on sent un côté comme ça quand même. Donc je vais pas en rajouter. Et puis quand j'étais petite, je me souviens que on a 2 ans de différence avec ma sœur. Quand ma mère nous habillait pareil, j'étais pas bien, j'avais honte, je détestais ça. Donc
ah ouais.
Je referais pas ça à mes petits, c'est sûr.
Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est marrant, c'est de le voir comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, c'est deux petites personnes à part entière, et c'est important d'exprimer aussi leur personnalité dans leur tenue aussi. C'est et puis après, ils feront les choix. Puis après, ils enverront balader les vêtements que tu leur achèteras. Et ça sera bien.
Il commence déjà. Il y en a qui vont pas mettre.
Joie. Est-ce que vous étiez entouré? Est-ce que, enfin, vous aviez un entourage proche pour vous aider? Est-ce que vous avez pu avoir un relais à l'arrivée des bébés?
Quand mon mari est reparti en mer, il y a ma mère qui est pas mal venue. Quand il partait une semaine sur deux, souvent, elle est venue quand ils étaient bébés, la semaine où ils n'étaient pas là. Donc ça a été ma plus grande aide, évidemment, parce que ça aurait été vraiment, vraiment très difficile de gérer ça toute seule. Ouais, ouais. Et même après, pour laisser des petits, déjà, je pense que c'est dur quand on a un seul bébé de le laisser à quelqu'un pour la nuit, même à une amie, etc. Mais quand on en a deux, c'est très dur. Il n'y a presque personne à qui on peut les laisser parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui savais comment gérer, moi et mon mari, pour pas qu'ils meurent. Ou je veux dire, même quand ils ont un an, surveiller 2 bébés d'un an, c'est, à chaque instant, ils mettent les doigts dans les prises, ils tombent de l'escalier. Enfin, j'avais pas l'impression que quelqu'un pourrait gérer ça, à part moi. Donc, on les a très peu laissés. Ouais.
Puis on a peut-être l'impression aussi que c'est une charge aussi de laisser 2 enfants à des personnes, même si c'est pour se faire un resto, même si c'est pour se faire une soirée. C'est pas la même chose que de laisser un enfant et c'est quelque chose qui revient souvent, même quand les personnes ont un 2e enfant par la suite. À partir du moment où il y en a plusieurs, c'est vrai que ça devient plus compliqué d'imposer, entre guillemets, ça à d'autres personnes.
Exactement, ouais.
Est-ce qu'ils ont été gardés assez rapidement?
Ils sont partis à la crèche à 7 mois.
Comment tu l'as vécu, cette séparation?
Bien, franchement, bien. La crèche où on était super. Et franchement, moi, j'étais très contente de me remettre au travail et puis de pouvoir juste... sortir acheter le pain sans prendre ma poussette double, des choses comme ça.
Mais c'est ça.
Parce que sinon j'étais avec eux 24/24. Enfin, quand mon mari rentrait de mer, oui, parfois il arrivait, hop, je tendais les bébés, je disais allez salut, je vais faire un tour seul. Non, moi ça m'a fait du bien qu'ils soient gardés. Bon, c'était 3 jours par semaine au début, on a commencé doucement.
Ouais. Mais justement, pour trouver une place déjà une place en crèche pour un enfant, c'est compliqué. Pour 2 enfants, est-ce que tu as trouvé ça plus compliqué?
Non, en fait, nous, ça a toujours été très facile. Puis, on a déménagé beaucoup depuis qu'ils sont nés. On a déménagé 3 fois. Et les 3 fois, on a toujours une place directe. Je pense que ça doit être une priorité, à mon avis, pour eux, les jumeaux. Parce qu'ils savent, à mon avis, que si tu dois payer une assistante maternelle, c'est impossible.
Ah, c'est hors de prix, enfants, voilà. C'est ça.
Donc, à mon avis, on a eu priorité. On n'a jamais eu de mal pour trouver des places. Non.
Ouais, c'est bien, c'est une chance.
Oui, heureusement.
Ouais. C'est clair.
Ouais.
Oh là là, ouais. Tes enfants grandissent. Qu'est-ce qui est le plus fascinant, tu trouves, avec des enfants qui grandissent?
Là, maintenant, à leur âge, je trouve que le plus intéressant à regarder, c'est les progrès qu'ils font chaque jour. Par exemple, dans le langage, chaque jour, ils nous disent quelque chose de nouveau. Chaque jour, je suis étonnée par les progrès qu'ils font, parce qu'ils comprennent aussi, parce qu'ils comprennent beaucoup plus de choses qu'on le pense. Ils nous écoutent parfois quand on parle juste nous, mon mari et moi, et hop, ils jouent à leur truc. Puis parfois, ils nous ressortent un truc qu'on disait entre nous, puis on voit qu'ils l'ont compris, qu'ils l'ont intégré. Ça m'étonne toujours. Je trouve ça génial. Le fait maintenant d'avoir des conversations avec eux et tout, j'adore vraiment. Hein, c'est trop mignon, quoi. C'est génial.
Ah, c'est trop bien. Quelle relation, eux, ils ont entre eux deux?
Quand ils étaient tout bébés et qu'ils sont nés, moi, je m'attendais limite à ce qu'ils aient besoin l'un de l'autre, qu'ils se tiennent déjà la main, qu'ils se fassent des câlins. Mais c'était pas du tout comme ça. Je pense qu'ils se sont ignorés complètement jusqu'à au moins 8 mois ou 9 mois où ils ont commencé un peu à... Mais maintenant c'est super. Ils rigolent beaucoup ensemble, ils font les fous. Parfois, on les couche la nuit, puis on les entend, ils discutent, ils rigolent. C'est vraiment mignon. Je pense qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir quelqu'un comme ça dans leur vie.
Ouais. Bah, c'est ça, ils sont avec quelqu'un qu'ils connaissent depuis toujours. Enfin, mais vraiment depuis toujours. C'est hyper rare et précieux comme lien.
Exactement, et c'est ce que je leur dis. J'espère qu'ils en seront très contents. Parce que je sais que parfois, certains jumeaux en souffrent. Que c'est peut-être pas parfois toujours aussi idyllique que ce qu'on veut nous faire croire. Par exemple, déjà entre frères et sœurs, par exemple, il peut y avoir de la rivalité, mais entre les jumeaux, ça doit être exacerbé vu que tout le monde les compare tout le temps et les ramène tout le temps l'un à l'autre. Voilà, j'espère qu'on réussira à éviter ces erreurs-là, mon mari et moi.
Puis t'as rien à toi, en fait, vraiment rien qu'à toi quand t'es jumeaux, genre un anniversaire, tu le partages, enfin, tu vois, c'est ça.
Ouais, et ça, je sens que les seules fois où ils se disputent vraiment, c'est toujours pour ça. Parce qu'ils sont tristes, en fait, d'avoir rien à eux, quoi. Je veux dire, la voiture, ils doivent la partager, la pâte à modeler, il faut la partager, les livres. Et évidemment, dès qu'il y en a un qui a quelque chose dans la main, l'autre veut exactement sa chose, même s'il a le même.
Ouais, c'est ça. Ça doit pas être évident, quand même, d'avoir ce truc-là de... pas avoir d'unité, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses, toi, par exemple, là, ils sont encore en crèche, mais quand il y aura à l'école, est-ce que tu penses que tu vas essayer de les séparer ou plutôt les laisser ensemble?
Maintenant, on n'a plus le choix. Je pense qu'ils les séparent d'office, d'après ce que
c'est
j'ai entendu.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ouais?
Et donc voilà, théoriquement, moi, je pense que c'est mieux de les séparer. Mais c'est vrai que, en pratique, maintenant, quand je les vois maintenant, ça me fait mal de savoir qu'ils vont chacun commencer l'école et être seuls au monde et tout, alors qu'ils n'ont jamais été seuls, finalement. Mais bon, je pense que pour eux, c'est quand même pour le mieux. Qu'ils puissent se faire leur univers, leurs amis, qu'ils ne soient pas toujours ramenés l'un à l'autre, justement, et comparés l'un à l'autre. Mais bon, c'est vrai que ça va me faire un peu mal au cœur qu'ils soient séparés au début. Ouais. Parce qu'ils ont l'habitude. Ils ne sont jamais seuls, ces petits, jamais. Ils ne sont jamais seuls.
Ouais, c'est quelque chose aussi, ça, d'avoir toujours quelqu'un avec toi. Tu n'as pas ce truc où, quand ton enfant est unique, finalement, où tu le laisses à quelqu'un pour le garder à la crèche, où tu as ce truc de transmission, de transition, justement, où tu es seul, où tu mets un petit doudou parce que, justement, il faut qu'il y ait un truc de la maison. Là, ils ont toujours un truc de la maison. Enfin, ils ont l'autre. Donc, c'est vrai que tu n'as pas, t'as pas cette transition. Et c'est vrai que j'imagine que ça peut être compliqué quand ça arrive. Je savais pas du tout qu'à l'école, maintenant, c'était automatique.
Ouais, ils le font. Et je pense qu'ils ont constaté que c'était mieux pour les jumeaux, peut-être.
D'accord. Encore faut-il que ce soit une grande école aussi, avec plusieurs classes. Quand
c'était, en maternelle, d'office, ils vont pas les séparer, parce que je pense qu'il y aura que... Voilà, mais à partir de CP, peut-être, ouais.
Ouais. Ah ouais, c'est intéressant. Du coup, toi, tu t'inspires beaucoup de ton quotidien, dans ton travail d'illustration. Est-ce que tu arrives à sortir de ça? Aussi.
Oui. Disons que, par exemple, ce que vous voyez sur Instagram, ça, c'est mon travail personnel que je fais pour moi, pour mes abonnés, etc. Mais à côté, je fais aussi des boulots professionnels. Donc, pour l'édition, pour la publicité, la presse. Et par exemple, là, je suis sur un projet BD. J'ai commencé un western.
Donc,
ça n'a rien à voir. Ça aide beaucoup de travail et voilà. Donc oui, c'est vraiment pour Instagram que je fais ces petits dessins. Ouais.
Ouais, parce que ça marche bien en fait. Finalement, puis ça parle à tellement de personnes.
Oui, c'est ça. Ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent, même ceux avec un seul enfant se reconnaissent, etc. Ça me fait plaisir. Ouais.
Et puis, enfin, c'est intéressant cette façon de sortir toujours, de faire mouche sur des moments qui sont toujours un peu compliqués, mais en fait. On a l'impression de prendre du recul et vraiment regarder la situation avec un autre regard et dire « bah ouais, en fait, c'est pas si grave que ça et ça va bien se passer, quoi ».
C'est ça qui fait du bien. Même au tout début, quand ils étaient tout bébés et que je mettais des dessins, des choses comme ça, ça me faisait du bien d'en rire, quoi, de mes problèmes et de me dire exactement comme vous dites, c'est finalement, allez, c'est pas si grave, on dédramatise et puis ça passera, quoi. Ouais.
Carrément. À partir de quel moment tu t'es vraiment sentie à l'aise dans cette maternité?
Moi, je pense que c'était... Ça a commencé à être moins difficile, où j'ai commencé à prendre du plaisir, vraiment, à la maternité. Je dirais, pareil, vers 9 mois, peut-être. Parce que disons qu'avant ça, ce que j'ai le plus regretté du fait d'avoir des jumeaux, c'était que quand ils étaient petits, j'avais l'impression de jamais pouvoir prendre le temps avec un. Que dès que, par exemple, je faisais un câlin ou je le changeais, je voulais lui faire des bisous sur le ventre, mais non, je pouvais pas parce qu'il y en avait toujours un qui pleurait derrière. Ou je donnais le sein à un, il y en avait toujours l'autre qui attendait, qui faisait une crise. Donc, j'ai l'impression d'avoir passé 8 mois vraiment complètement stressé, sans pouvoir prendre ce temps. Et je regrette un peu quand je vois maintenant des petits bébés, puis je me dis, oh là là, puis j'ai l'impression que j'ai pas su profiter de cette période-là, en fait. Parce que j'étais trop dans trop d'angoisse, dans trop de stress, trop d'épuisement Et du coup, voilà, quand je vois les petits bébés comme ça, avec leur petite peau, les petits pieds, j'ai l'impression que j'en ai pas profité comme il aurait fallu. J'ai commencé à apprécier, oui, vraiment, un peu plus tard. Ouais.
Est-ce que t'arrives à accorder du temps, justement, à chacun d'eux, en individuel?
Mais finalement, pas si souvent que ça. On en parlait avec mon mari la dernière fois, et on se disait, on devrait faire des journées où lui en prend un, et moi j'en prends un autre, puis on fait... On le fait, mais rarement. Souvent, on est quand même tous les quatre, vraiment toujours ensemble. Ouais.
Ouais, c'est quelque chose de rare. Peut-être que ça viendra aussi en grandissant, hein, avec plus d'autonomie.
Et je pense que c'est important qu'ils en auront besoin aussi, de un jour passer une journée juste qu'il y en ait un qui est son papa pour lui tout seul, puis d'un coup l'autre sa maman pour lui tout seul. Enfin, ça leur fera du bien.
Est-ce que ça te donnerait envie, toi, de te relancer dans l'aventure de la maternité pour avoir un nouveau petit bébé?
Alors, pas du tout. Jamais. Non, pas du tout.
Non.
Bon, déjà, j'aurais trop peur d'avoir à nouveau des jumeaux. Ça arrive, hein, vous savez.
Ouais.
Et deuxièmement, physiquement, j'ai l'impression que je survivrai pas, sincèrement. J'ai l'impression que si je devais être à nouveau enceinte, j'y resterais. Mais alors que c'est sûrement faux, parce que si j'étais enceinte que d'un enfant, sûrement que ma grossesse se passerait pas aussi mal que la première s'est passée, ce serait pas aussi dur. Mais je repasserai jamais par tout ça, non. La césarienne, les nuits, etc. Non. Deux, c'est bien que j'en ai eu deux d'un coup, parce que là, c'est bon, ça ira. Oui.
Bah, on passe quand même de justement à un désir de pas être mère, enfin de pas avoir d'enfant, à avoir deux enfants d'un coup. Ouais. Le gap, il est quand même assez énorme. En tant qu'individu, est-ce que t'en as souffert, toi, de ça, de ce changement?
J'en ai souffert au début. De perdre cette liberté, justement.
Ouais, carrément, parce que c'est tellement... on devient la mère de... Enfin, la mère de... J'aime bien dire ça, parce que la mère de...
j'avais compris.
Mais c'est un peu ça.
Non, parfois j'étais pas aussi... une mère de... J'étais pas une mère.
Non, mais on devient la maman de et plus ouais. Un individu à part entière. Et je trouve que c'est un cap qui est difficile, et comme quand on va à la crèche, c'est « Ah, c'est la maman d'eux !»
C'est ça, c'est vrai, tout à fait. À la crèche, à chaque fois, moi aussi, elle nous appelle, on est que la maman des petits.
D'ailleurs, à la crèche, justement, ils disent quoi? Ils disent la maman des jumeaux ou alors la maman avec leur prénom?
Non, à la crèche ici où on est, elle est très bien, les dames sont vraiment bien, et jamais, jamais, elle les appelle les jumeaux. Par exemple, le matin, elle les accueille tout le temps en disant « Bonjour Alexandre, bonjour Zachary ». Elle dit jamais bonjour les jumeaux, par exemple. Je pense qu'elles sont un peu formées, puis elles doivent savoir que... Et par exemple, moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout qu'on appelle les enfants les jumeaux.
Ouais.
Ça me déplaît. Et ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme de les mettre, si c'était une seule personne, une entité, les jumeaux. Ils ont un prénom, et bon, après, voilà, je vais pas faire la guerre non plus aux gens. Je comprends que ça vienne naturellement, etc. Mais moi, par exemple, je n'utilise jamais ça. Jamais je parle de mes enfants en disant les jumeaux.
Ouais, c'est vrai que ça leur colle une étiquette, en fait, finalement, dès le départ, alors que, ben, ils ont rien demandé. Oui, et que une fratrie, on leur dit pas, les frères et sœurs, enfin, ou
c'est
les
ça.
Frères.
Ils sont plus juste eux, mais directement associés à leurs frères. Donc voilà, bah, ça, je vais essayer d'éviter un maximum ce genre de truc, c'est sûr.
Ouais.
Bon, après, ils vont pas y couper, hein, mais...
Certainement, parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand on en parle justement avec des parents de multiples, où c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Et moi, j'entends, enfin, à l'école, il y avait, dans la classe à côté de celle de ma fille, il y avait justement des jumeaux, et moi, ça me choquait à chaque fois. Ils disaient tout le temps, ah, les jumeaux, c'est votre tour de partir et tout ça. Et j'ai dit, mais en fait, non, quoi, c'est pas possible. Enfin.
Ouais, ouais. C'est sûr qu'on est forcément tenté de les renvoyer l'un à l'autre. Et même mon mari et moi, on fait ça. On a toujours fait ça, même si on essaye de l'éviter. Forcément, on dit, ah oui, t'as vu, lui, il a fait ça, puis lui, il a pas fait ça, puis lui, il fait comme ça par rapport à lui. C'est sûr, c'est inévitable. Mais bon, on va essayer de se surveiller, puis voilà, de pas mettre l'accent là-dessus.
Ouais. Tu parles de ton mari. Est-ce que votre couple en a pris un coup à la naissance des bébés?
C'est sûr que c'est pas facile. Quand j'entends parfois les gens dire... qui vont faire un enfant pour sauver leur couple, un truc comme ça.
Oh, non, vraiment... ne faites pas ça.
Ah oui, ne faites pas ça. Vraiment, c'est une excessivement mauvaise idée. Il faut déjà un couple très solide, parce que ce qu'il y a, c'est que... Bah, ça, je pense que peut-être jumeaux ou un seul enfant, c'est pareil. Parce que je pense que ce qu'il y a, c'est que l'énervement, l'épuisement, forcément que voilà, ça crée des tensions dans le couple, le manque de sommeil, et puis le fait parfois qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Mais en même temps, j'ai trouvé aussi que ça crée quelque chose de super fort entre les deux quand même, parce que je veux dire, c'est la seule autre personne qui peut s'émerveiller avec nous de choses. On les regardait quand ils étaient bébés, on était, ah regarde, il a attrapé sa peluche. Je veux dire, Karim, c'est le seul au monde que ça peut intéresser, un truc comme ça, enfin voilà. Donc c'est merveilleux aussi, mais c'est vrai que il y a eu des tensions quand même.
Ouais c'est ça, quoi. C'est, et puis d'autant plus, enfin, avec le manque de sommeil, avec plein de choses comme ça, je trouve ça hyper dur, moi perso, pour la relation en fait en elle-même. On peut dire des choses qui sont pas qu'on pense pas en fait déjà,
c'est sûr,
et qui sortent d'une façon qu'on n'aurait même pas imaginée et qui fragilise. Et ouais, je te rejoins sur le faites pas un enfant, s'il vous plaît.
Ah oui, c'est sûr.
Vraiment pas. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Est-ce que vous arrivez à vous accorder des moments tous les deux aujourd'hui?
Maintenant, oui. Franchement, bon, c'est pas non plus la fête à mort, mais on arrive quand même à le faire, et je pense que c'est important parce qu'on l'a pas fait pendant très longtemps vu qu'on les laissait pas. Mais maintenant qu'ils ont 2 ans et demi, on les laisse un petit peu à la mère, on essaye de les laisser une fois par semaine. Donc voilà, soit dans ces cas-là, on peut faire un resto. La dernière fois pour mon anniversaire, on a pris une chambre d'hôtel, on est parti faire la fête avec des amis, puis on a dormi à l'hôtel, puis ça nous fait un bien fou, quoi. Faut essayer de le faire.
C'est ça. Après, c'est vrai que quand ils grandissent, ça devient de plus en plus plus facile aussi. T'as ce truc de... Bah, c'est plus facile même physiquement pour soi, je trouve, de les laisser.
Ouais.
Et après, ouais, ça se fait quand même plus facilement.
Même à 2 ans et demi, je les laisserai pas encore... Je veux dire, je les laisse à ma mère. Et c'est à peu près tout, sincèrement. Quand ils sont réveillés, hein, parce que sinon, s'ils dorment et que quelqu'un vient pour surveiller leur sommeil, ça va. Mais voilà, ce serait difficile pour moi de les laisser encore à quelqu'un d'autre.
Ah ouais ?
Ouais, quand ils grandiront un peu et qu'ils arrêteront de faire n'importe quoi de dangereux pour leur vie, peut-être.
Mais... tu crois que ça arrive, ça, un jour ?
Je sais pas, tu crois pas ? Tu me fais peur, là.
Non. Non, bien sûr, ça arrive, je pense. Après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité des enfants.
Enfin, oui, il y en a
des plus casse
que plus ou moins prudent, oui. Mais c'est vrai que moi, je suis assez, assez angoissée par rapport à ça. J'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Je sais que c'est pas bon et tout, mais voilà, c'est comme
ça. Ah, mais ça, on peut pas contrôler.
On
contrôle pas toujours. C'est, voilà, il y a un truc comme ça qui, voilà. En matière d'éducation, est-ce que vous étiez en accord, justement, ensemble, tous les deux?
Oui, sincèrement, on voit, mon mari est très gentil, etc. Donc, moi, j'avais très peur avant qu'il naisse, qu'il soit vraiment trop gentil, qu'il laisse tout passer. Et finalement, je suis surprise de voir que non, il est finalement, il a un peu plus d'autorité que moi. Il y a un moment, quand c'est bon, c'est bon. Et ça, j'aime bien, parce que j'aurais pas voulu que ce soit toujours moi qui...
Ouais.
Qui doit faire la discipline ou qui voilà donc on est assez d'accord en général là-dessus. Bon, Karim lui il est moins stressé, donc lui il est plus pour les laisser faire leurs expériences. S'ils montent sur la table, c'est très bien. Puis moi voilà, et je sais qu'il a raison parce qu'il me dit tu vas toi-même les stresser puis leur passer une sorte d'angoisse en faisant ça. Et je sais que c'est vrai, mais je peux pas m'en empêcher, c'est tout. Voilà.
Ouais, c'est
lui
clair.
Il est plus cool, on va dire.
Ouais. Cool. Et vous étiez renseigné un petit peu en matière d'éducation, vous avez lu des bouquins, des trucs comme ça, vu que vous passez quand même vraiment de je veux pas d'enfants, j'y connais rien, à avoir des enfants.
Pas vraiment. J'ai lu quelques bouquins quand j'étais enceinte, mais sincèrement rien à quoi j'ai vraiment accroché. J'ai trouvé une lecture assez cucu en général. Et puis bon, je suis peut-être pas tombée sur les bons bouquins non plus, mais voilà, non, ça a pas été.
Ouais, vous faites plutôt au feeling, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est bien. Ça veut dire quand même que vous faites assez confiance pour le faire. Enfin.
Je sais pas si c'est le fait de se faire confiance, mais bon, je pense qu'aussi, chacun a sa personnalité. Et par exemple, on parle beaucoup d'éducation positive, des choses comme ça. Je pense qu'il faut avoir un caractère déjà qui rentre là-dedans. Enfin, moi, j'ai des amis qui font ça, par exemple, et ils sont extrêmement calmes, tous les deux. Ils sont d'un naturel très calme, etc. Et c'est super. Mais moi, je sais que par exemple, pour nous, on essaye de faire ça, bien sûr, je leur explique à chaque fois, mais moi, mon caractère, pour moi, c'est, il y a un moment, je peux pas avec ma patience et tout ça, et parfois, c'est vrai que c'est culpabilisant, parce qu'on se dit, zut, là, j'ai pas réussi, je me suis mise à crier, parce qu'ils m'ont fait péter un plomb, puis on est humain et tout, même si je sais que c'est pas bien et tout ça, mais c'est juste que je vais pas non plus, comme, cacher mon caractère ou maquiller qui je suis pour et puis je pourrais pas, de toute façon, donc, voilà, je sais que parfois, c'est pas toujours les bonnes choses à faire ou les bonnes décisions. Mais je fais ce que je peux, hein, avec ce que j'ai.
C'est exactement ça. Et en fait, la vérité, c'est que ben, c'est bien beau hein, d'avoir des livres de théorie, mais ils ne sont jamais appliqués dans la vraie vie. Enfin, on lit des choses. Et,
ouais.
Et en fait, face à une situation donnée, on ne peut pas toujours être voilà, complètement zen, complètement détendu, parce que ben, selon un facteur X, Y, il y en a un qui se met en danger, donc on crie parce que... Ben, voilà,
parce qu'on a eu peur, parfois.
Voilà. Ouais, après, je pense qu'en fait, le plus important, finalement, c'est de revenir là-dessus et de, voilà, d'assumer aussi, et enfin, tant qu'il n'y a pas de viol, enfin, on ne violente pas, et c'est remettre les choses dans leur contexte et d'avoir conscience de ce qu'il faut faire, d'une part, et d'essayer de le mettre en application voilà. Au maximum. Mais on fait ce qu'on peut, quoi.
C'est
avec
ça,
les moyens qu'on a à un moment T.
Voilà. Mais en parlant de théorie et de choses comme ça, bon, c'est pas vraiment sur l'éducation, mais je me souviens que quand j'étais enceinte, il y avait partout des affiches à l'hôpital, etc., avec marqué « Ne secouez pas votre bébé, ne secouez pas votre bébé ». Sur le moment, je me disais « C'est débile de nous mettre ça, évidemment qu'on va pas secouer son bébé, on n'est pas débile, enfin, on va pas faire une chose pareille ». Et finalement, parfois, après, quand les petits étaient vraiment tout bébés, il y a des fois où j'étais tellement énervée et je revoyais ces affiches et je me disais finalement, heureusement que j'ai vu ces affiches. Là, je vais juste le poser et sortir de la chambre parce que parfois, c'est juste sur le moment une sorte d'impulsion où ça peut... Donc, quelque part, heureusement qu'ils nous mettent des choses comme ça parce que du coup, ça nous vient à l'esprit. On se dit, oh, finalement, c'est fou parce que ça pourrait arriver vu l'état de folie dans lequel je suis, etc. Donc, c'est ça, c'est la théorie où on se dit, ah non, évidemment que je ferai jamais ça et tout ça. Et parfois, en pratique, c'est pas si simple. On se dit, heureusement que je suis prévenue et que, voilà, je le pose, je sors un peu, ça va aller.
Mais c'est à ça que ça sert, justement, la prévention. Et surtout
exactement.
Que, enfin, je veux dire, avec la fatigue, en fait, on n'est jamais confronté à une telle fatigue avant, en fait, voilà, d'avoir des enfants. Voilà. Et on ne sait pas ce que c'est. Et on a beau dire, oui, moi, ça ne va pas m'impacter ou alors ça va aller, ça va durer qu'un temps. Même si ça dure qu'un temps donné et parfois ça dure plus longtemps que ce qu'on avait imaginé, bah c'est pas gérable, c'est une technique de torture, la fatigue.
Mais c'est une torture, c'est tout à fait ça. Pour moi, quand ils étaient petits, c'était une torture d'être réveillé toutes les heures et demie. Quand tu viens de t'endormir, c'était, moi j'avais peur de m'endormir après, je pouvais plus, quoi, parce que, alors c'était, c'est une torture,
c'est
vraiment.
Et on réagit de toute façon, pas de façon normale, enfin, de la façon dont on a géré en temps normal avec nos 8 heures de sommeil, quand on est fatigué. Et tout à l'heure, on en parlait pour le couple, mais en fait, c'est pareil dans toutes les situations, dans toutes, avec les enfants, ou même au travail après, derrière, dans les relations au quotidien, c'est hyper compliqué, je trouve, d'être complètement efficace et de faire comme si ça n'existait pas. Enfin, ça me demande beaucoup, tu vois, quand t'as eu des enfants, après, quand tu reviens dans la vie active, de faire comme s'ils étaient pas là, sauf qu'en fait, au quotidien, ils sont là, et au quotidien, on dort pas. Donc, c'est chaud, quoi.
Et le pire, c'était quand on nous disait dormir en même temps qu'eux. Puis t'es genre, mais ils dorment que quand je les berce dans la poussette
c'est
des
ça.
Conseils comme ça, c'est qu'ils sont impossibles parfois à mettre en pratique. Ouais.
Et puis t'as juste la vie qui continue aussi après. Enfin, je veux dire, tu peux pas juste dormir en même temps qu'eux. Mais déjà, faut assurer. Pour dormir en même temps qu'eux.
C'est ça.
Dormir comme un bébé, ça n'existe pas. C'est faux.
C'est l'expression la plus fausse du monde, oui, c'est ça.
C'est un vrai mensonge. Et ouais, non, c'est clair. Heureusement qu'elles sont là, ces préventions. Et il y a une expression qui dit, avant d'avoir des enfants, j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants.
C'est tellement ça.
C'est tellement ça. Et ouais, non, c'est pas évident. Et après, bien sûr, le manque de sommeil est différent. Enfin, on finit par redormir à un moment.
Oui.
Je veux dire, au bout de 15 ans.
Non, finalement, quand je vois des mères qui sont épuisées, qui dorment pas, je leur dis toujours, ça passe assez vite. Vous verrez que ça passe vite. On a l'impression sur le moment que, mais bon, le temps passe tellement vite que finalement, allez, c'est juste une petite période. Puis, mais c'est vrai que quand on est dedans, allez.
Mais elle est intense, quoi. Et j'ai l'impression que ça traumatise chaque parent. Enfin, tu t'en souviens très longtemps de ce manque de sommeil. Sauf peut-être ceux qui recommencent, mais
ils ont oublié. Je sais pas ce qui
s'est
passé.
Ou alors ça a vraiment pas duré longtemps chez eux. Mais non, mais c'est vrai que oui, ça passe, tout passe. Mais il n'empêche que c'est difficile sur le moment et que c'est pas à négliger et que c'est important de le souligner aussi et d'être à l'écoute justement de ces parents qui galèrent dans les moments de sommeil ou quand on a deux en plus, le relais est vachement plus difficile à passer parce qu'en fait vous êtes deux à vous lever, quoi.
Voilà, exactement, c'est ça. Il n'y en avait jamais un de nous qui pouvait dormir et l'autre s'occuper de l'enfant, par exemple. Quand il y a un enfant pour deux parents, à la limite, bon voilà, quand on a deux enfants, deux parents, c'est plus dur. Une nuit, je me souviens que même parce que mon mari, c'était moi qui me réveillais parce que lui il dormait vraiment profondément et il entendait très peu les petits pleurer. Donc c'était moi en général qui me levais la nuit. Et une nuit, je me souviens que j'ai pris une chambre d'hôtel à 100 mètres de chez moi. J'ai dit là, je vais mourir en fait. Il faut que je dorme. Je vais faire une nuit entière parce que je vais en mourir, quoi. Et voilà, c'était trop bien.
Ouais, non, mais c'est ça. Mais ça ne peut pas forcément toujours arriver tout de suite. Avec l'allaitement, tiens d'ailleurs, comment tu as géré justement ce système des nuits? Il se levait aussi
Mon mari?
Ouais.
Oui, il se levait aussi. Souvent, ce que je faisais, c'est que je mettais un petit au sein et l'autre, je tirais mon lait. Et donc, Karim me donnait le biberon à l'autre. Parce que vu qu'on devait, on avait que 3 heures, je voulais pas perdre le temps à les allaiter tous les deux, l'un après l'autre, machin. Donc, on le faisait en même temps. Et donc, voilà, ça changeait. T'en avais un qui était au sein et l'autre avec mon lait tiré dans un biberon.
Mais même ça, la logistique de tirer son lait en plus de s'occuper de deux bébés, tu t'arrêtes pas.
Et quand ils ont commencé à dormir un peu plus et tout ça, je me souviens que j'étais obligée de me lever la nuit pour tirer mon lait. Donc là, j'étais vraiment dégoûtée parce que c'était même pas les petits qui me réveillaient, c'est que j'avais les seins durs comme de la pierre et il fallait que je tire mon lait, quoi. J'étais dégoûtée. Ouais.
Bah ouais, c'est ça. Non, parce que le tir allaitement, ça aussi, c'est quelque chose. Hein. Enfin, c'est,
ouais, c'est long.
C'est timé, c'est difficile, je trouve. Et,
ouais, c'est difficile.
Je l'ai vécu aussi, tu vois. Moi, j'ai commencé mon allaitement avec du tir allaitement. Et en fait, t'as toute cette logistique de vaisselle en plus aussi, t'as plein de trucs. C'est quand tu décides de donner le biberon, bah la vaisselle ça fait partie du game, tu vois. Mais là t'as ça en plus d'énergie à donner et
c'est vrai.
Et c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce que tu retiendrais, toi, de cette aventure de maman de jumeaux? Ouais, c'est une question très très large.
Oui, c'est large. Je trouve ça très surprenant en fait qu'il me soit arrivé une chose pareille. Je suis toujours très surprise, sincèrement. Mais maintenant j'en suis contente parce que c'est spécial aussi, c'est quelque chose moins rare maintenant, mais c'est original, c'est chouette. Je suis contente, et pour eux aussi. Je suis contente qu'ils aient ça, voilà, qu'ils aient cette personne à côté d'eux qui sera si proche, j'espère, de tout mon cœur. Et notre famille, bah voilà, tous les quatre, on s'amuse beaucoup, c'est sûr qu'on rigole beaucoup.
Ouais, c'est
clair. Il faut.
Bah, c'est ça. Si t'avais un conseil à donner à des futurs parents de jumeaux qui, voilà, qui seraient un peu en panique et qui seraient dans la découverte là, qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, c'est un peu qu'est-ce que tu te dirais à toi quand t'as découvert, tu vois, cette grossesse gémellaire?
Je pense que on a beaucoup de conseils déjà. Beaucoup. Alors, je sais pas si j'ai un conseil à donner aux gens. C'est pas si dur que ça. Ça passe vite, le moment difficile. Voilà, c'est ça que je dirais. Ouais. Il y a un moment qui est vraiment trash, mais il passe. Il passe vite, même si quand on est dedans, on n'a pas l'impression.
Ouais, c'est ça. Merci, Pauline. Si on veut retrouver ton travail, si on veut découvrir tes travaux, par où ça se passe? Comment ça se passe?
Alors, c'est sur Instagram. J'ai une page à mon nom, Pauline Perrollet.
T'as une BD aussi, il me semble, non?
Oui, j'ai fait plusieurs BD, mais oui, ouais. Il y a une BD sur les jumeaux qui s'appelle La vie, les jumeaux et moi, qui a été publiée chez First Edition. Donc ouais. Voilà, vous pouvez la trouver aussi.
Elle est toujours en librairie, ouais.
Ouais.
Ouais, super. Bah écoute, merci Pauline, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et puis, à bientôt.
Merci beaucoup Élise, merci de m'avoir invitée. Puis à bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, des contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autant d'un café.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.